Convoi de la liberté. Le 14 février dernier, le gouvernement canadien a annoncé des plans draconiens visant à geler les comptes bancaires des manifestants associés au convoi de la liberté. Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, a même laissé entendre que ces nouveaux pouvoirs étendus seraient utilisés pour cibler ceux qui font partie du mouvement pro-Trump. Mouvement accusé par le gouvernement de donner des centaines de milliers de dollars au convoi de la liberté. Convoi de la liberté 2. Ce même jour, 14 février, les participants français du convoi de la liberté, traqués par la police belge et non rejoints par des manifestants d'autres nationalités, n'ont pas pu terminer leur parcours dans Bruxelles comme ils l'avaient pensé. Partis pour la plupart depuis une semaine, ils voulaient manifester leur refus des passes sanitaires et vaccinaux, qui constituent pour eux une grosse atteinte à la liberté. Corruption. Le Crédit Suisse, numéro 2 du secteur bancaire suisse, dans la tourmente. Ce groupe bancaire historique, au siège situé à Zurich, est accusé d'héberger des fonds d'origine criminelle, fonds liés à des dictateurs, à la corruption, au crime organisé ou encore à des espions. Tout a démarré il y a un peu plus d'un an, quand une quantité importante d'informations internes a fuité anonymement et a été remise au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Au total, ce sont plus de 100 milliards de francs suisses ou 95 milliards d'euros qui sont concernés. Anticorruption. L'association de lutte contre la corruption, Anticor, a décerné fin janvier, comme chaque année, ses prix éthiques et ses casseroles. Par exemple, l'Observatoire des multinationales a reçu un prix éthique pour son rapport sur la présidence de l'Union européenne assurée par la France depuis le 1er janvier, rapport qui révèle l'alignement du gouvernement français sur les intérêts des grandes entreprises. Prix d'éthique également pour un policier lanceur d'alerte, suspendu depuis, pour un ancien inspecteur des impôts qui a sorti un livre « La corruption, comment ça marche ?» et également pour Julian Assange. Côté casserole, distinction pour des élus ou hauts fonctionnaires partis s'enrichir dans le secteur privé, comme Natacha Valla, directrice adjointe de la Banque Centrale Européenne, qui a rejoint LVMH en juin 2020, ou bien pour Mathias Vichera, haut fonctionnaire devenu directeur de Sciences Po. Insolite. L'île de Peel, petit morceau de terre de 15 hectares, situé au large de la côte nord-ouest de l'Angleterre, cherche un roi ou une reine à plein temps. Cette île abrite un château en ruine et un pub vieux de 3000 ans, le Ship Inn et un camping. Déjà 190 candidatures sont arrivées du monde entier. Lors de la cérémonie d'intronisation, le roi ou la reine prête serment. Il ou elle doit jurer d'être un bon fumeur, un bon buveur et de donner à toute personne trouvée morte sur les sables un refuge gratuit dans le pub. L'île connaît une activité intense l'été, alors que l'hiver, elle est peuplée par seulement 2 personnes.
Anne Lauvergeon a encore fait des siennes. L'ancienne conseillère spéciale du président Mitterrand, qui fut ensuite présidente d'Areva jusqu'à son implication dans le scandale Uramine avec son conjoint en 2011, s'est lancée une nouvelle fois dans le trading énergétique et n'a pas respecté ses engagements. En effet, dans le cadre de l'ouverture des marchés publics du gaz et de l'électricité, la société Ipango, présidée par Anne Lauvergeon, s'engageait à maintenir ses tarifs pour le gaz à prix fixe. Notre experte se serait-elle encore faite avoir ? En tout cas, la société de la millionnaire a malmené la vie d'au moins 1500 locataires des logements HLM de la régie immobilière de la ville de Paris, qui ont vu leur robinet de gaz purement et simplement coupé. C'est ensuite qu'ils ont appris qu'il leur faudrait ajouter 40 euros par mois à leur facture pour maintenir leur approvisionnement avec une autre société. Alors que le nouveau film « Enquête sur un scandale d'État » de De Peretti est sorti en salle le 16 février dernier, François Thierry, ex-patron des Stups de France, a lui été condamné le 18 février pour procédure abusive contre le journaliste co-auteur du livre qui a inspiré le film. François Thierry, c'est le vrai nom du personnage nommé Jacques Billard, le patron des stupes, dans le film de De Peretti, interprété par Vincent Lindon. Le nom de l'infiltré, Hubert Antoine, est en réalité Hubert Avoine, décédé en 2018. Et le nom du journaliste qui a inspiré le personnage de Stéphane Villeneuve se nomme en réalité Emmanuel Fonstaine, journaliste de Libération dans la vraie vie, contacté en mai 2016 par Hubert Avoine, qui s'était alors servi d'une fausse identité que lui avait fournie l'État français pour ses missions secrètes. Quelle est la réalité des faits ? En 2017, grâce à leur enquête, Emmanuel Fonstaine et Hubert Avoine ont bel et bien réussi à faire la lumière sur le système déviant de la lutte anti-drogue de la France, qu'ils accusent même de participer davantage à la diffusion des produits qu'à l'arrestation des trafiquants, les couloirs de la brigade des stupes étant même soupçonnés d'être entièrement corrompus ou manipulés. Les locataires successifs du ministère de l'Intérieur, qui ont tous soutenu François Thierry depuis son entrée en poste en 2006 jusqu'au retrait de son habilitation d'enquête judiciaire en octobre 2017 par la procureure générale de Paris, continuent à le soutenir. Pourtant, cet ancien directeur de la lutte anti-drogue, qui avait déposé plainte pour diffamation contre Emmanuel Fonstaine en 2017 à la sortie du livre, l'a retiré en janvier dernier. Retrait trop tardif selon la Cour, qui l'a quand même condamné à verser des indemnités aux journalistes. Retrouvez toutes les références sur notre site internet.